De sorte que les Israélites se voient perdus et se retournent vers moi, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous fais sortir pour périr au désert. Alors je crie à l'Éternel, qui dit, étends ta main, étends ta verge, puis je l'ai fait. Et qu'est-ce qu'on a vu? Les eaux se sont ouvertes. Mais comment? Est-ce qu'on peut entrer là-dedans? Oui, j'ai fait les premiers pas, ils ont suivi, et c'était comme des murailles durcies. Et nous avons passé, mais le pharaon, quand il est arrivé et qu'il a vu que nous nous passions, il a voulu, lui aussi, prendre le même passage pour nous retrouver. Et voilà que Dieu est intervenu, les roues des chars du pharaon se sont détraqués, et finalement, nous, le dernier des Israélites était dehors, j'étais au bord. Et tout à coup, Dieu me dit, étends ta verge. Et tous les Égyptiens étaient dedans, j'ai étendu ma verge et les eaux sont revenus. Oh alors, après ça, nous avons chanté un cantique dans la joie. Marie, ma sœur, était là, elle dansait avec les tambourins. C'était vraiment la joie. Mais ensuite, eh bien, ce fut pendant 40 ans les expériences du désert. J'ai été au Sinaï, là Dieu est descendu sur la montagne dans un embrasement extraordinaire. Qu'était-ce le buisson ardent? Quand on a vu maintenant toute la montagne enflammée et on a entendu, et le peuple a entendu la voix de Dieu, les 10 paroles ont été prononcées, ils avaient tellement peur, et moi aussi, qu'on a demandé que Dieu ne parle plus. C'est pour cela que il n'y a plus de ces révélations pareilles, parce que les hommes ont dit, non, non, nous ne voulons plus entendre cette voix. Alors Dieu se tait, c'est le silence de Dieu, parce que les hommes ne peuvent pas supporter la voix de Dieu. Et Dieu m'a dit de monter sur la montagne. Il m'a donné les tables de la loi, où les 10 paroles étaient écrites du doigt de Dieu. Et pendant que j'étais là, à parler avec Dieu, pendant qu'il me montrait un plan extraordinaire d'un tabernacle qu'il voulait avoir au désert, eh bien, eux, les Israélites, quand ils font, ils ont fait un vent. Ils ont dit, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Et ils se sont prosternés devant le veau. Et Dieu m'a averti, le peuple a péché. Alors je suis descendu et j'ai trouvé ces gens qui adoraient le veau d'or. J'étais tellement en colère que j'ai brisé les tables. Et Dieu m'a dit, écoute, maintenant je vais exterminer ce peuple. Et je prie de toi un peuple. J'ai refusé. J'ai dit non, Seigneur. Plutôt, efface-moi de ton livre. Mais ne fais pas cela. Sauve le peuple. Et pendant 40 ans, j'ai dû tout le temps prier parce que il murmurait sans cesse. Et puis moi-même, eh bien moi-même aussi, j'ai eu des mauvais moments. Un jour, je me suis un peu énervé. Dieu m'avait dit de frapper le rocher, de parler au rocher. Et au lieu de parler, je l'ai frappé. J'avais frappé une fois dans une autre circonstance, mais Dieu, cette fois, m'avait dit, tu parleras au rocher. Et puis, en voyant ce murmure du peuple, j'étais fatigué, et j'ai frappé, 2 fois. Et Dieu m'a dit, tu ne m'as pas honoré dans cette affaire, tu n'entreras pas dans le pays. Moi qui avais vécu pour pouvoir aller dans le pays, la promesse dans ce pays, ruisselant de l'été de miel, Dieu m'a dit, ne me parle plus de cette affaire, tu n'entreras pas. Aaron, Marie, sans mort. Puis le temps de mon départ était aussi arrivé, il m'a averti et m'a demandé de me trouver un successeur. Et j'ai trouvé en Josué sous la direction de l'Éternel. Puis ensuite il m'a dit, monte sur la montagne. Et c'est ainsi que je suis allé encore sur la montagne. J'étais en pleine forme, mais ensuite je suis parti dans les bras de Dieu. Alors vous me demandez, qui donc est Dieu? Que puis-je vous dire? Je vais vous le résumer. Ce que je puis vous dire, qui donc est Dieu? Dieu, l'Éternel, est miséricordieux, lent à la colère, et d'une grande bonté. Il est un Dieu de vérité, envers des millions de générations, des milliers de générations. Il pardonne l'iniquité, la transgression et le péché. Mais il ne tient nullement le coupable pour innocent. Et il visite l'iniquité des pères
jusqu'à la quatrième génération.
Alors, je vous le dis, à vous qui êtes au camp, Mahanaïm, Dieu a mis devant vous le chemin de la vie, le chemin de la mort, et il vous dit, choisis la vie afin que tu vives. Seigneur, qu'il en soit ainsi, et que le Dieu qui a parlé à Moïse soit celui que nous écoutions, afin que notre fin puisse être semblable à celle de ces hommes de Dieu qui meurent dans tes bras. Amen.
Mes amis, nous sommes au matin du 25 juillet et fidèlement nous poursuivons notre thème qui donc est Dieu. Pour la dernière fois, je vous lis ou je voudrais que vous le récitiez par cœur, le texte d'entrée. Est-ce que vous pourriez le dire avec moi? L'Éternel m'est apparu de loin. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'attire avec bonté. Vous devriez savoir ça par cœur, hein, parce que je vous l'ai récité plusieurs fois pour que vous le sachiez par cœur, à moins que vous pensiez c'est une redite et vous n'écoutiez pas. Alors vous ne le savez pas par cœur. Voulons éviter le piège qui nous amènerait à répondre à notre question thème par des définitions théologiques creuses, nous continuons donc à interroger des hommes qui nous paraissent avoir vécu avec Dieu pour apprendre de leur bouche ce qu'ils ont su de Dieu dans leur vie. Car évidemment, comme tous les descendants d'Adam, tous nos témoins sont morts. Mais comme dit l'Écriture, quoique mort, il parle encore. Il ne s'agit pas pour nous de consulter ceux qui évoquent les morts à la manière des spirites, mais de laisser parler cette nuée de témoins qui nous entourent et qui connaissent déjà, dans le monde invisible, une part bien meilleure que la nôtre, même s'ils n'ont pas encore revêtu leur corps de résurrection. Alors, ce matin, c'est à un homme qui a vécu 110 ans, l'âge où mourut Joseph, que nous nous adressons. À sa naissance, cet homme fut appelé Osée. Plus tard, devenu serviteur de Moïse, le grand législateur d'Israël, Moïse lui donna le nom de Josué, fils de Nun, ce qui veut dire dont le salut est l'Éternel. Josué, fils de Nun, toi qui fus avec Caleb, les seuls hommes qui sortirent d'Égypte, et qui purent entrer dans le pays de Canaan, dis-nous donc ce que Dieu fut pour toi. Et voici ce qu'il nous dit. Oui, j'étais né en Égypte, dans cette fournaise de fer, où mon peuple vécut pendant 400 ans, selon la parole qui avait été dite à Abraham lorsque Dieu fit alliance avec lui. J'ai donc été témoin des 10 plaies dont les Égyptiens furent frappés à cause de l'endurcissement du Pharaon. J'ai vécu la nuit de l'agneau pascal. J'ai traversé la mer Rouge à la suite de Moïse, j'ai goûté aux eaux amères de Marat, devenues douces par un miracle de Dieu. J'ai connu les délices de l'oasis d'Élim, où il y avait 12 fontaines et 70 palmiers. Et puis, ce matin-là, oh, je m'en souviendrai toujours, un beau matin, nous avons vu quelque chose de menu et de grenu sur la face du désert, comme de la gelée blanche, et on s'est dit, qu'est-ce que c'est? Et Moïse nous a dit, c'est la manne que le Seigneur vous donne pour nourriture durant la traversée du désert. Et nous l'avons recueilli, et nous l'avons mangé, et nous avons trouvé ça excellent. Ça avait le goût d'un gâteau au miel. Mais il ne faut pas seulement une nourriture pour vivre dans le désert. Il faut surtout de l'eau. Et le peuple avait soif et le peuple murmurait. Et alors à ce moment-là, Moïse a reçu l'ordre de frapper le rocher d'Horeb. Et il l'a frappé et les eaux ont jailli de ce rocher dur. Et nous nous sommes désaltérés. Et à cette eau, moi aussi, j'ai bu. Et c'est immédiatement après que Moïse m'appelle. Elle me dit, Josué, tu vas maintenant choisir des hommes d'Israël et tu vas être mis à la tête de cette petite armée pour combattre les Amalécites qui viennent contre moi. Et moi, pendant ce temps-là, m'a dit Moïse, je serai sur la montagne et je lèverai la main. Et tant que j'aurai la main levée, vous aurez la victoire. Mais Moïse avait la main pesante, comme du reste sa langue, comme il l'avait dit, était pesante. Sa main aussi était pesante. Alors il a pris 2 amis avec lui, Hur et Aaron, son frère, qui l'ont soutenu. Et pendant que moi, je combattais Amalek, quand je regardais et que je voyais la main levée, nous avions la victoire. Mais si Moïse avait la main baissée, nous étions alors défait. Mais jusqu'au coucher du soleil, Moïse a pu tenir sa main levée vers le ciel et nous avons défait complètement Amalek. Et alors là, l'Éternel a dit à Moïse, écris cela dans le livre et dis à Josué que je détruirai complètement Amalek de dessous le ciel. Alors j'ai eu comme un pressentiment, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Pourquoi est-ce que l'Éternel lui dit à Josué? Et j'ai réfléchi là-dessus. Mais enfin, mon cœur était engagé. Nous avions vu la victoire et nous avons appelé ce lieu Jéhovah Nissi, l'Éternel, notre bannière. Oh, je me souviens de cela. Puis, nous sommes arrivés au Sinaï, devant cette montagne, et j'ai entendu cette voix qui parlait au milieu du feu. J'ai entendu les 10 paroles, et non seulement cela, mais quand Moïse est monté sur la montagne, il m'a dit, tu viendras avec moi. Et j'ai été pendant 40 jours, là, sur la montagne, avec Moïse. Et j'ai vu ces tables de pierre que Dieu avait préparées lui-même et il avait écrit de son doigt les 10 paroles que nous avions entendues. Et après 40 jours, averti par le Seigneur, Moïse a dit « Nous allons redescendre ». Mais moi je ne savais pas ce qui s'était passé. Et quand nous descendions, figurez-vous que en approchant du camp, j'ai commencé d'entendre un bruit de casserole, des cris gutturaux, et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut être? Un peu comme hier soir dans votre camp à Anaïm, moi j'ai cru que c'était des épées qui s'entrechoquaient, et alors j'ai dit à Moïse, mais il y a un bruit de guerre dans le camp, il y a un bruit de guerre. Et Moïse m'a dit, ce n'est pas un bruit de défaite, ce n'est pas un bruit de victoire, ce sont des gens qui chantent et qui s'entre-répondent. Alors, figurez-vous, on a continué, et puis quand on est arrivé, mais c'était quelque chose d'épouvantable, on a vu un veau en or. Oh, dans un sens, c'était merveilleux, ça brillait au soleil, et tout le monde était là, courbé devant le veau d'or, et disait, voici ton Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte.
Et ils étaient assis pour manger et pour boire. Alors, j'ai vu Moïse pâlir et prendre ces tables si chères que Dieu lui avait données, et quelque chose d'effroyable, il les a brisées avec. Et il n'est pas mort. Il a brisé les tables de la loi. Dans une sainte colère, il a dit à Aaron, pourquoi as-tu fait cela? Tu connais le peuple, il est enclin au péché. Il m'a demandé cela, alors je l'ai fait. Et la colère de Moïse s'est enflammée contre son frère Aaron. Comment as-tu pu faire ça? Il a pris le veau, il l'a mis en pièces, on l'a moulu, on l'a mis dans l'eau, on a mis la poudre d'or dans l'eau, et on l'a fait boire à tout Israël. Buvez votre veau. Et voilà, ça je m'en souviens. La fidélité de Moïse. Et puis il a dit, qui est pour moi? Les fils de Lévi se sont levés, passés à travers le camp, et 3000 personnes ont été frappées et sont mortes par l'épée des fils de Lévi qui ont pris position pour Moïse. Mais l'Éternel était si fâché qu'il a dit, je vais détruire le peuple. Alors j'ai entendu Moïse se jeter à genoux et en disant, Seigneur, efface-moi de ton livre, mais sauve le peuple. Et je suis monté avec Moïse encore. Mais quand Moïse a vu ce que le peuple avait fait, il a pris sa tente, la tente, et il est allé hors du camp. Et c'est là que Dieu s'est manifesté. On a vu la gloire de Dieu descendre sur la tente qu'on a appelée la tente d'assignation. Et c'est là que Dieu parlait face à face avec Moïse. Il lui parlait face à face. Et puis moi, une fois que Moïse retournait vers le peuple, moi je restais. Je restais dans la tente. Je restais seul dans cette tente où Dieu avait parlé avec Moïse. J'étais encore jeune à ce moment-là. Et je pourrais vous raconter encore mille choses. Marie et Aaron un jour, parce que Moïse étant devenu veuf, probablement, enfin certainement, avait épousé une Éthiopienne, et ils ont voulu contester la chose, et Dieu a fait devenir Marie lépreuse, en disant, mais quand je parle à un prophète, je me révèle à un prophète, oui, dans un songe, dans une vision, mais à Moïse, moi, je lui parle face à face, comme un homme parle à son ami. Moïse était si doux. Il a prié pour la guérison de sa sœur Marie, et elle a été guérie. Et après cela, Moïse a demandé que 12 hommes des tribus d'Israël partent comme espions, et j'ai été nommé, moi aussi, avec Caleb. Et nous sommes allés pendant 40 jours, nous avons exploré le pays. Moïse nous avait dit, vous regarderez s'il y a des fruits, si le pays est bon, vous regarderez s'il y a des villes ouvertes ou des villes fortifiées, et puis vous reviendrez nous faire le rapport. On a vu tout cela, on a vu des villes fortifiées, les fils d'Anak, les fils des géants, mais aussi des fruits extraordinaires. On a ramené une grappe de raisin, il fallait être deux pour la porter. C'était la grappe qu'on a appelée la grappe d'Escol. Et quand on est arrivé faire notre rapport, eh bien, nous avons dit avec Caleb que nous pouvions monter malgré les fils d'Anak et que l'Éternel serait avec nous, qu'il nous donnerait la victoire. Mais les 10 ans, ils nous ont démolis et ils ont découragé le peuple, si bien que le peuple a murmuré et a dit, nous ne monterons pas. Et c'est alors que Dieu a dit à Moïse, eh bien, il n'y en a que deux qui entreront dans le pays. Ceux qui sont sortis d'Égypte, il n'y en a que deux. Les autres mourront dans le désert. Ils erreront pendant 40 ans dans le désert. Et voyez-vous, après cela, j'ai vu quelque chose d'effroyable. Le cousin de Moïse, Corée, et deux autres, Dathan et Abiram, se sont dressés contre Moïse avec 250 hommes d'Israël en disant, il n'y a pas que Moïse et Aaron pour diriger le camp. Nous aussi, nous avons l'Esprit de Dieu. Et nous aussi, nous voulons donner une direction au camp et dire ce qu'il faut faire dans le camp. Alors, J'ai vu cela, j'ai vu Moïse de nouveau très pâle, j'ai vu très triste, et il a prié, et il a dit, eh bien, demain, vous saurez qui le Seigneur a choisi pour diriger le camp, et il a convoqué tous ceux qui avaient murmuré et qui suivirent Corée, Dathan et Abiram. Et à ce moment-là, Moïse a dit, eh bien, si ces hommes meurent de la mort de tous, de la mort commune à tous, eh bien, c'est que Dieu ne m'a pas choisi. Mais si quelque chose de nouveau se passe, eh bien, vous saurez que l'Éternel m'a choisi. Et tout à coup, il a dit, retirez-vous des tentes de Corée, Dathan et Abiram, et on a vu la terre s'ouvrir, et tous ces révoltés ont disparu vivants dans le séjour des morts. Ça, je l'ai vu. Et j'ai vu ensuite les murmures avec les serpents qui mordaient les hommes et les femmes, les enfants qui mouraient. Et puis Moïse qui doit faire le serpent des reins. Et immédiatement, quand on regardait le serpent, on était délivré, on était guéri. Pourquoi y avait-il eu cela? Parce que on s'était plaint de la manne, on trouvait que la manne était une misérable nourriture. J'ai vécu cela, mais la chose la plus douloureuse pour moi, c'est qu'un jour, de nouveau, nous avions soif au désert, et Moïse a reçu l'ordre de parler au rocher, et un peu fatigué, Moïse avait frappé deux fois le rocher, on lui a dit parler. L'eau a coulé quand même, oui. Parce que Dieu est miséricordieux pour le peuple. Mais Dieu a dit à Moïse, tu ne m'as pas honoré dans cette affaire. Tu n'honoreras pas. Mais c'est pas possible que Dieu soit si véridique. Tu n'honoreras pas. Parce que tu ne m'as pas honoré. Alors, Moïse a prié, je le sais. Lui qui était toujours exaucé pour les autres, il a été exaucé pour lui. Mais il a accepté cette discipline. Alors, oui, c'est à ce moment-là, puisque lui n'entrerait pas, qu'il a dit au Seigneur, mais qui est-ce qui conduira le peuple? Et l'Éternel lui a dit, prends Josué, mets les mains sur lui, devant Éléazar, et c'est lui à qui je confierai l'entrée dans le pays de Canaan. Puis j'ai vu Moïse monter sur la montagne, s'il a gravi cette montagne, comme un alpiniste tout jeune, et puis au sommet de la montagne, il a contemplé le pays. Et Dieu l'a recueilli dans ses bras et l'a enseveli. Et alors maintenant que Moïse était mort, je me suis dit, mais il a été avec Moïse, mais moi, le petit Josué. Et le Seigneur m'a dit, Moïse, mon serviteur est mort, mais comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Et il a tenu parole. Et pour m'accréditer, il m'a dit que si je lisais la loi de Moïse et que je la mettais en pratique, je serais béni et que partout où irait mon pied, le pays serait à nous. Et il a fait les mêmes choses qu'il avait fait pour Moïse. On a dû traverser le Jourdain. Eh bien, ce Jourdain a été divisé alors que c'était les grandes crues. Il y a eu comme un mur qui était retenu par le vent d'un côté, et puis tout le reste de l'eau est allé vers la mer morte, et nous avons pu passer à pied sec. Alors j'ai ordonné que l'on sorte du Jourdain 12 pierres qu'on a dressées de l'autre côté comme mémorial, et là, de l'autre côté, Dieu m'a dit de circoncire tous ceux qui n'avaient pas été circoncis dans le désert. Ce fut Gilgal, où l'opprobre a été roulé, où tous ont été marqués, et il fallait maintenant commencer l'attaque contre Jéricho. Mais je me demandais comment je devais faire. Alors, j'ai envoyé des espions, et vous connaissez peut-être, vous avez entendu parler de cette Rab qui a reçu mes espions, et mes espions lui ont dit, eh bien tu auras la vie sauve, puisque tu as fait cela pour mes hommes, par cette femme qui était pourtant une prostituée, avait au fond de son cœur la crainte de Dieu. Mais moi, après le rapport des espions, j'étais devant Jéricho un soir, et tout à coup j'ai vu un homme, resplendissant, et je lui ai dit, es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Et il m'a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens, est une terre sainte. Au fond, ce qu'il avait dit à Moïse devant le buisson ardent, il me le disait devant Jéricho. Et il m'a donné le plan pour toute la stratégie pour prendre Jéricho. Et vous connaissez comment, au son des trompettes, le septième jour, au septième tour, les murailles sont tombées et nous avons pris possession de Jéricho. Alors, tout le monde très encouragé a pensé, ben, la ville d'Haï, nous l'aurons tout de suite après. Mais voilà que, quand on est allé pour prendre Haï, c'était la catastrophe. Nos hommes ont été taillés en pièces. Alors moi, je me suis jeté par terre. J'ai prié. J'ai dit, mais pourquoi, oh Dieu, tu permets une défaite pareille? Et Dieu m'a dit, cesse de prier. Finis ta prière. Relève-toi. Israël a péché. Comment Israël a péché? Oui, tu sais ce que j'avais dit, que personne ne devait prendre de l'interdit dans le camp, que tout ce qu'on trouvait dans le camp ne devait pas aller dans les camps, mais tout devait être mis au trésor de l'Éternel. Eh bien, il y a un homme qui a pris un manteau de sinar, mais qui a pris un lingot d'or et 250 pièces de sac d'argent. Convoque le peuple pour demain. Donne-leur encore une journée, au fond, pour se repentir. Mais demain, je manifesterai qui a fait cela. Et alors, quelle nuit que celle-là. Le lendemain matin, les tribus se sont avancées, et c'est la tribu de Judas qui fut prise. Et puis, finalement, la famille d'un certain homme, et en dernier lieu, l'homme. Il s'appelait Achan. J'ai dit, mon fils, dis-nous ce que tu as fait. Et il a confessé qu'il avait été tenté et qu'il avait caché dans sa tente le manteau de sinar, l'argent et l'or. J'ai envoyé les jeunes gens, ils sont venus, ils ont trouvé ça comme ça. Alors Dieu a dit, montez dans la vallée d'Achor, la vallée du trouble. Et là, on l'a lapidé avec les siens et on l'a brûlé au feu. Oh, voilà le Dieu que je connais. C'est un Dieu qu'on ne manipule pas. Et on doit croire sa parole. Et ensuite, on a eu des victoires par la grâce de Dieu. L'Éternel a combattu pour nous. Il a fait même tomber des pierres du ciel sur nos ennemis. Et voyant que le soleil allait se coucher, voulant qu'on puisse finir la bataille, j'ai eu l'audace de dire, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et lune, arrête-toi sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'est arrêté. C'était le jour le plus long du monde. Dieu m'avait répondu, et nous avons eu une victoire complète. Ensuite, eh bien, nous avons pris possession du pays de Canaan, et nous avons pu le partager selon les tribus avec Éléazar. J'ai accompli cette tâche, mais voilà, je suis devenu vieux. Alors, j'ai convoqué tout Israël et je leur ai dit, vous avez vu comment Dieu vous a donné du repos en Israël, dans ce pays de Canaan. Eh bien, maintenant, je vous en supplie. Moi, je suis Dieu, je vais suivre le chemin de toute la terre. Observez les paroles de Moïse. Mettez-les en pratique. Ne vous prosternez point devant les dieux de ces pays. N'invoquez pas leur nom. Ne vous mêlez pas à ces gens. Ne prenez pas leurs filles en mariage. Ne donnez pas vos fils en mariage. Mais attachez-vous à l'Éternel pour l'aimer. Et nous avons fait un dernier rassemblement à Sichem. Et je leur ai dit, eh bien voici, maintenant, moi je m'en vais mourir. Mais vous, vous êtes arrivés aujourd'hui à une décision à prendre. Choisissez qui vous voulez servir. Si ça ne vous plaît pas de servir l'Éternel dont vous avez vu les œuvres, eh bien, servez les dieux de vos ancêtres d'au-delà du fleuve. Quant à moi, et je pouvais parler pour mes enfants, j'avais autorité encore sur eux, quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ils ont dit, nous servirons l'Éternel, nous ferons tout ce qu'il nous dira. J'aurais dit, mais attention, vous n'allez pas pouvoir le servir. Ils ont dit, oui, nous le servirons. alors c'est vous qui avez choisi. Et j'ai pris une pierre, et j'ai dit, bien, cette pierre aura entendu vos paroles et sera témoin contre vous. C'était à Sichem, sous un chêne, je m'en souviendrai toujours. Et ils ont dit, nous servirons l'Éternel. Alors vous me demandez, qui donc est Dieu? Je vous dirais, Dieu est le Dieu vivant. Dieu est celui que nous devons croire et prendre au mot. C'est celui à qui nous devons donner vraiment notre cœur, mais d'une façon totale et entière. Parce qu'il est fidèle dans ses promesses, mais aussi dans ses menaces. Alors, prenez Dieu au sérieux, et si vous voulez savoir ce que je peux vous dire, si vous voulez réussir dans toutes vos entreprises, eh bien, faites comme moi, lisez la parole du Seigneur, méditez-la jour et nuit, et le Seigneur accomplira pour vous ses promesses. Amen. La pointe de ton épée ait pu nous atteindre et que Josué ne nous ait pas témoigné en vain, mais que nous puissions faire aussi en 1986 l'expérience que si Josué est mort, le Dieu de Josué n'est pas mort, qu'il est vivant et que tout ce qu'il a accompli pour Josué, il l'accomplira pour nous. Amen. Plaçons ces moments sous ton regard et nous te demandons de présider en toutes choses selon tes pensées, selon ton cœur et ton amour. Donne-nous de recevoir avec douceur la parole que tu nous apportes. En Jésus. Amen. Mes amis, nous sommes arrivés au samedi 26 juillet et nous poursuivons notre thème de qui donc est Dieu. Et je vous lis ce texte. Certainement, l'Éternel est dans ce lieu et je ne le savais pas. Et l'exclamation de Jacob à son réveil en pleine nature, alors qu'il fuyait la colère d'Ésaü. Et cet autre texte, « Suis-je un Dieu de près, dit l'Éternel, et non un Dieu de loin? Un homme se cachera-t-il dans quelque cachette où je ne le vois pas, dit l'Éternel? Tu es près de leur bouche et pourtant loin de leur cœur. Mais toi, Éternel, tu me connais. Tu me vois? Tu sondes mon cœur qui est avec toi. Le bien-aimé, nous gardons de donner quelques définitions sur notre Dieu en réponse à cette question qui donc est Dieu, nous continuerons de demander à des hommes de la Bible de nous dire quelle connaissance ils ont eu de Dieu. Après Abraham, Enoch, Isaac et Jacob, après Job, Moïse et Josué, c'est vers quelqu'un qui n'avait pas 75 ans ni 65 ans lorsque Dieu le rencontra que nous nous tournons aujourd'hui pour l'interroger. Il était encore tout jeune enfant quand Dieu se manifesta à lui. Et je pense que vous l'avez tous déjà
reconnu, il s'agit de Samuel. Samuel, qui veut dire demander à Dieu ou encore exaucer de Dieu. Et nous le laissons nous parler, puisque Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, et que pour lui tous vivent. Mon père s'appelait Elkana, qui veut dire zèle de Dieu, et ma mère, elle s'appelait Anne, qui veut dire miséricordieux, ou qui exauce. Avant ma naissance, je sais que ma mère a beaucoup pleuré. Mais je ne pensais pas que mon père était méchant avec elle. Au contraire, il donnait toujours à ma mère une portion double. Et il pensait qu'à lui seul, il lui valait 10 fils. Elle souffrait quand la tristesse de ma mère devenait si grande qu'elle s'arrêtait même de manger. Et c'était vraiment pour mon père une grande douleur. Comme plusieurs de ce temps-là, mon père avait, savez-vous, 2 femmes. Ce qui diffère d'avec vous aujourd'hui, c'est que mon père, lui, il les avait les 2 ensemble. Tandis que vous, vous les prenez l'une après l'autre. Pénina, l'autre femme de mon père, qui veut dire perle, pierre précieuse, eh bien, elle était jalouse de ma mère, parce qu'elle voyait que mon père l'aimait plus qu'elle. Et alors elle mortifiait ma mère, en lui soulignant sans cesse que Dieu l'avait rendue stérile et qu'il ne lui donnait pas d'enfant, donc elle n'était pas dans sa voie. Et chaque année, mon père montait, selon la loi, à Philo pour adorer à la maison de l'Éternel. Et là se trouvait un des juges d'Israël, celui qui avait succédé à Samson, et qui était rien d'autre que le sacrificateur Élie, un homme âgé, père de 2 fils. Et je puis vous dire que moi, je suis le fruit des prières de ma mère. À Silo, ma mère a tellement prié, avec d'abondantes larmes, parce que elle se souvenait que Dieu ne résiste pas aux larmes. Et un jour qu'elle était là, pleurant, elle a prolongé sa prière d'une façon qui a paru bizarre au vieil Élie qui était assis et qui l'observait. Et il regardait ses lèvres et il a cru qu'elle était ivre. Et alors il a apostrophé ma mère d'une façon extrêmement dure en lui disant, espèce d'ivrognesse, quand est-ce que tu auras fini avec ton vin? Fais passer ton vin. Et ma mère lui a répondu, mais je suis une femme qui souffre, qui est une peine de cœur, et ce que je viens de demander au Seigneur, c'est de m'exaucer, de me donner enfin cet enfant que je désire tant. Alors, Élie, tout dur qu'il était, lui a dit, eh bien, va en paix, et que Dieu exauce ta prière. Et voilà, ma mère est devenue enceinte. Et je suis né. Elle m'a appelé Samuel parce que dans sa prière, elle avait fait un vœu en disant, si tu m'exauces, mon fils, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Donc, elle ne me voulait pas pour elle, mais elle me voulait vraiment pour Dieu. Et voilà, j'ai grandi, elle m'a nourri à son sein, puis quand l'année est arrivée où il fallait monter à Silo, elle a dit à mon père, moi je monte pas, parce que je me consacre
à mon petit ? Et mon père lui a dit, oui, mais tu l'avais prêté à l'Éternel. Oui, mais je ne peux pas le donner avant de l'avoir sevré. Alors mon père a dit, eh bien, tu as raison, fais comme tu penses, mais n'oublie pas que tu as fait un vœu et que tu dois l'accomplir. Et voilà, c'est ainsi que, quand elle m'eut sevré, j'avais peut-être 5-6 ans, puisque on nous nourrissait au sein longtemps. Évidemment, c'était mixte aussi. Mais quand j'ai 5 ans, à peu près, elle me conduisit au temple. Et c'est là que je commençais à servir Dieu dans l'arche, près de l'arche à Silo.